Nous allons poursuivre aujourd'hui notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes à Ézéchiel. Nous avons regardé la semaine dernière la première partie. Nous continuons cette semaine en examinant le contenu du livre d'Ézéchiel ainsi que ses leçons morales. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est le contenu du livre d'Ézéchiel. Alors la ville de Jérusalem vient de subir deux grandes invasions. Mais le jugement de Dieu sur la ville n'est pas épuisé. La vision d'Ézéchiel de la gloire de Dieu qui s'éloigne d'abord du temps puis de la ville illustre la certitude d'un jugement à venir. Dieu châtiera également les nations païennes voisines. Alors, premier élément du contenu du livre d'Ézéchiel qui va du chapitre 1 aller jusqu'au chapitre 3, verset 27. Alors, c'est l'idée principale, c'est l'Éternel qui mandate Ézéchiel. Alors, Ézéchiel commence son récit autobiographique en déclarant « Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Dans les temps bibliques, une vision était une expérience miraculeuse que Dieu accordait à ses serviteurs à une occasion précise. Il leur révélait la vérité sous forme graphique et audible. Les visions et les rêves accordés aux prophètes sont parfois des énigmes pas toujours faciles à interpréter. On peut développer cette idée-là en mentionnant les versets 6 à 8 du livre des Nombres au chapitre 12. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Les exilés au milieu desquels Ézéchiel vit et exerce son ministère sont issus des classes supérieures et compétentes de la société judéenne. Ils forment un groupe connu pour ne pas prêter attention aux avertissements des prophètes. Ils espèrent que leur exil sera de courte durée et qu'ils retrouveront leur richesse, leur rang et leur statut d'antan. Des faux prophètes à Babylone incite les Israélites captifs à croire que Jérusalem ne sera pas détruite et que les exilés pourront bientôt rentrer dans leur pays. Le lien de plus en plus fort qui unit le roi Sédécias au pharaon d'Égypte encourage certainement l'espoir d'un prochain rétablissement. Le prophète Jérémie a connaissance de cet espoir et envoie une lettre aux exilés pour les encourager à s'établir à Babylone. Il leur dit « Bâtissez des maisons, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Jérémie, chapitre 29, versets 5, 7 et 10. Ézéchiel est appelé à tenir le rôle d'une sentinelle pour Israël et transmet les avertissements de Dieu. Il commence son ministère en confirmant tout ce que Jérémie a déclaré et cherche à persuader les exilés de revenir à l'Éternel avant de pouvoir espérer retourner à Jérusalem. Sa tâche est ardue. Il doit faire face à de l'opposition. L'idolâtrie qu'Ézéchiel a constatée parmi les Juifs de Jérusalem est également présente chez les exilés à Babylone. La sanction dont Dieu a frappé le peuple lors de la première vague de déportation n'a pas poussé les premiers exilés à se repentir. Ils ne croient pas que Jérusalem sera réellement détruite par les Babyloniens. La seconde invasion et la nouvelle déportation en exil d'un plus grand nombre d'Israélites ne réussit pas à dissiper l'optimisme grandissant. Il leur est très désagréable d'accepter le fait que l'Éternel a donné la domination du monde aux Babyloniens et que les Juifs doivent non seulement se soumettre à leurs conquérants, mais également œuvrer et prier pour la paix de leurs ennemis. Les prophètes Jérémie et Ézéchiel délivrent le même message. Jérusalem tombera et les Juifs connaîtront un exil de plusieurs années. Jérémie prédit une durée de 70 ans. Deuxième élément, les jugements contre Juda avant la chute de Jérusalem, ça va du début du chapitre 4 jusqu'au chapitre 24 inclusivement. Cette section contient principalement des visions, des avertissements et des prédictions concernant la culpabilité des habitants de Juda et la destruction prochaine de Jérusalem. C'est le péché qui a amené le jugement de Dieu sur le peuple et la captivité subséquente. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. Dans sa vision, Ézéchiel voit les péchés dont sont accusés les anciens de la maison d'Israël. Idole dans le temple, femme pleurant Tammuz, la déesse de la fertilité, et les hommes se prosternant devant le soleil. Ils imitent les pratiques égyptiennes en adorant les crocodiles, les chats, les taupes et les scarabées. De nombreuses visions accordées à Ézéchiel, les plus significatives sont celles qui ont trait à la gloire de l'Éternel. Voici comment le prophète décrit le départ de la gloire divine du temple et de la ville. Dans sa vision, Ézéchiel voit des roues sur l'arche de l'Alliance. Il aperçoit ensuite la gloire de l'Éternel se diriger vers le seuil du temple, vers la porte orientale, puis sur le mont des Oliviers. La gloire du Seigneur quitte le sanctuaire lentement, à contre-cœur, avec dignité. L'expression « la gloire de l'Éternel » revient 12 fois dans les 11 premiers chapitres. Puis il y a un long silence. Mais la gloire de l'Éternel reviendra. Ézéchiel ne communique pas les messages divins seulement par la parole de sa bouche, mais aussi par des actions symboliques. L'Éternel lui dit, « Je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. » Ézéchiel renonce volontairement à son confort personnel et à ses intérêts privés. Il accepte de faire tout ce que Dieu lui commande. Il illustre le siège de Jérusalem en se servant d'une poêle en fer, en représentant les événements sur une brique, en mangeant des rations que l'on distribue lors d'un siège. Il se rase la barbe, se coupe les cheveux, en partage la quantité pour indiquer le sort qui attend les habitants de Jérusalem. Il rassemble ses affaires et creuse un trou dans la muraille pour dépeindre l'exil de la population. Une sorte de danse de l'épée devient une leçon de choses pour faire comprendre ce que l'épée du roi de Babylone fera contre la ville sainte. Le prophète indique sur le sable la stratégie du roi de Babylone. Tout, depuis la chaudière jusqu'à la mort de sa propre femme, sert de leçon de choses pour illustrer le sort qui attend la nation dans un très proche avenir. Quand le contenu des premières prophéties d'Ézéchiel parvient à Jérusalem, le roi Sédécias entend ce qu'il considère comme contradictoire entre les prophéties d'Ézéchiel et de Jérémie. L'un affirme que le roi ne verra pas Babylone. L'autre affirme qu'il sera amené captif à Babylone. C'est peut-être ce qui incite Sédécias à traiter Ézéchiel et Jérémie de faux prophètes. En réalité, l'Éternel prouve que ses deux serviteurs ont transmis des prophéties exactes. Les deux communiquent la parole inspirée de Dieu. Effectivement, peu après, Nebuchadnezzar vient, assiège Jérusalem, capture Sédécias, lui crève les yeux, le lia avec des chaînes d'airain et le mena à Babylone. Quand le roi Nebuchadnezzar avait placé Sédécias sur le trône de Juda à l'origine, il avait conclu une alliance avec lui. Mais 5 années plus tard, probablement en accord avec les rois d'Édom, de Moab, d'Amon, de Tyr et de Sidon, Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Dieu considère cette révolte comme un péché grave parce que Nebuchadnezzar avait fait jurer le roi de Juda par le nom de Dieu. De tous les prophètes, c'est Ézéchiel qui parle le plus du séjour des Israélites en Égypte à l'époque de l'Exode. C'est seulement dans la prophétie que Dieu mentionne l'idolâtrie du peuple en Égypte et fait état de son intention de le détruire à cause d'elle. Seul le souci de sa gloire l'a empêché de mettre son projet à exécution. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. La femme qu'Ézéchiel chérissait tendrement meurt 11 ans après son exil à Babylone, 6 ans après le début du ministère prophétique de son mari, l'année même où débute le dernier siège de Jérusalem. La mort de sa femme sert de signe de Dieu que Jérusalem ne sera pas épargnée. Autre élément, c'est les jugements contre les nations voisines qui vont du chapitre 25 aller jusqu'au chapitre 32 inclusivement. Après avoir annoncé la sévérité du jugement divin contre Juda, l'Éternel charge le prophète de faire connaître ses jugements contre les nations qui entourent Israël. Dieu s'en prend à elles, non à cause de leur péché d'idolâtrie seulement, mais aussi en raison de leur hostilité envers Israël et de leur persécution contre son peuple. Ces nations jubilèrent lors de la chute de Jérusalem et prêtèrent main forte aux assaillants. Les prophéties contre l'Égypte rappellent l'influence que ce pays a exercée sur Israël pendant des années. Les Égyptiens ont souvent semé le trouble en Israël, tantôt par une hostilité déclarée, tantôt par une amitié feinte. Ézéchiel prononce 6 prophéties contre l'Égypte, chacune étant datée à partir du jour où le roi Josaphat est emmené en exil. Le prophète vise le pharaon Ophra, le successeur de Nécho. Contrairement aux nations mentionnées plus haut et détruites par Nebuchadnezzar, l'Égypte continuera d'exister, mais son royaume sera le moindre des royaumes et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Depuis ce temps-là, l'Égypte n'a jamais retrouvé son lustre. 4e élément, les prophéties concernant le retour et le rétablissement du peuple de Dieu, qui va du chapitre 33 jusqu'au chapitre 48 inclusivement. Jérusalem tomba en 586 avant Jésus-Christ. Après que les sévères jugements de Dieu se soient déchaînés contre Jérusalem et Juda, et après la destruction du temple et de la ville, le prophète change brusquement de message. Après l'annonce du jugement, il fait entendre un message d'espérance clair et décisif. jusqu'au chapitre 24, verset 2, son message est essentiellement Jérusalem tombera. À partir de 34, verset 11, il voit plus loin et annonce Jérusalem se relèvera. Au moment où Jérusalem succombe devant les Babyloniens, la langue du prophète se délie et celui-ci est libre d'annoncer une espérance future. À partir du moment où la fausse croyance que Jérusalem ne sera pas prise vole en éclats, le peuple commence à prêter attention aux paroles d'Ézéchiel. Celui-ci prédit un avenir pour Israël, un réveil spirituel aux dimensions exceptionnelles. Si la plupart des adultes ne verront pas ce jour personnellement, beaucoup de leurs enfants auront néanmoins la possibilité de rentrer dans le pays d'Israël. Les derniers chapitres sont remplis de prédictions et de promesses liées au rétablissement. Rappelons les moyens que Dieu utilisera pour rétablir la gloire de la nation. L'écoute, premièrement, l'écoute des avertissements des sentinelles spirituelles et la repentance du péché, dans le chapitre 33. Deuxièmement, la disparition des mauvais bergers et l'arrivée du bon berger qui prendra soin du troupeau. Le temps viendra où le peuple reconnaîtra le Seigneur et où un vrai prophète sera au milieu d'eux. Troisièmement, une réformation complète de la religion, un nouvel exode, le retour d'exil du peuple de Dieu, une nouvelle alliance, un nouveau cœur et un nouvel esprit pour l'assemblée restaurée, au chapitre 36. Quatrièmement, le relèvement de la puissance du Saint-Esprit, chapitre 37. Cinquièmement, la défaite des ennemis d'Israël, chapitre 38 et 39. La construction d'un nouveau sanctuaire, chapitre 40 à 42. Le retour de la gloire de l'Éternel, chapitre 43. Le ministère de sacrificateurs fidèles, chapitre 44. Les eaux vivifiantes qui couleront du sanctuaire, chapitre 47, et le retour d'Israël dans son pays, au chapitre 48. Allons maintenant passer au deuxième point, les leçons morales du livre d'Ézéchiel. La première, on pourrait très certainement parler de la responsabilité individuelle. La tâche d'Ézéchiel est de convaincre les exilés que leur situation est la conséquence directe de leur péché. Si le livre souligne constamment la souveraineté de Dieu, celle-ci ne supprime en rien la responsabilité personnelle des pécheurs. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. L'Éternel ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Il exhorte vivement les pécheurs à se tourner vers lui. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Revenez, revenez, pourquoi mourriez-vous? L'Éternel déclare son amour pour les pécheurs dans ses paroles incomparables, comme on peut lire dans Ésaïe, chapitre 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dans une société dont les gouvernants sont condamnés pour leurs crimes et les parents pour l'inconduite de leur progéniture adulte, il n'est pas de bon ton d'insister sur la responsabilité personnelle. Depuis l'aube de l'humanité en Éden, les pécheurs ont tendance à accuser les autres. Adam s'en prit à Ève et à Dieu. Ève accusa le serpent. L'Éternel invite chacun à rendre compte pour lui-même. Deuxième leçon morale, c'est celle de cœur nouveau. La corruption et le péché d'Israël ont attiré la réprobation de Dieu sur le peuple. Rien chez le peuple, ni dans son comportement, ne mérite la moindre compassion, ni la plus petite parcelle d'amour du Seigneur. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profanées au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Ce que Dieu envisage d'entreprendre est révolutionnaire et radical. Purifier les croyants de toute souillure et de toute idolâtrie. Ôter le cœur ancien. Implanter un cœur nouveau rempli d'amour pour Dieu. Et donner un esprit nouveau d'obéissance. Ces promesses se sont accomplies dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu donne un cœur nouveau et y fait demeurer son esprit, celui-ci produit une véritable conviction de péché. Troisième leçon morale, c'est celle de la naissance de l'Esprit. À 25 reprises, Ézéchiel fait référence à l'Esprit de Dieu. La vision de la vallée des ossements met en relief l'œuvre unique du Saint-Esprit. Cette vision souligne la mort spirituelle des Israélites et annonce leur guérison et leur restauration. Elle éclaire la détresse collective des Israélites en exil. Elle ne s'intéresse pas à leurs conditions politiques, mais à l'absence de vie spirituelle. Les ossements sont complètement secs. L'expression n'indique pas tant le temps écoulé depuis que ces ossements gisent là que la profondeur de la détresse dans laquelle Israël est tombé. La vraie calamité du peuple réside dans sa révolte contre Dieu et sa parole, dans la domination du péché et l'inévitable ruine morale que cette attitude a entraînée. L'Éternel ordonne à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux et de parler à l'Esprit, indiquant par là qu'il devait prêcher et prier. Il doit s'adresser aux ossements desséchés, c'est-à-dire prêcher à des pécheurs morts spirituellement. Mais il doit aussi implorer l'Esprit de Dieu pour qu'il régénère et renouvelle par sa puissance. Ce passage et d'autres de l'Ancien Testament auraient dû faire comprendre à Nicodème le sens des paroles de Jésus. Il faut que vous naissiez de nouveau. Dans son entretien avec ce pharisien, le Seigneur Jésus se réfère probablement au souffle qui vient dans la vallée des ossements quand il déclare « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Au jour de la Pentecôte, il se produisit un phénomène qui associait la fusion du Saint-Esprit à la prophétie d'Ézéchiel. Dans Actes 2, verset 2, et verset 4, on lit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Parmi les bienfaits de la nouvelle naissance, la venue du Saint-Esprit se lie à la prédication de l'Évangile à des pécheurs spirituellement morts. La vallée des ossements ne se confine plus à Israël. Sa dimension est universelle. Aussi, le Seigneur ordonne « Allez, faites de toutes les nations des disciples » dans Matthieu 28, verset 19. Quatrième leçon morale, c'est celle qui concerne les responsables d'Église. Ézéchiel condamne les faux prophètes pour leurs intérêts égoïstes et les chefs pour leur irresponsabilité. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Dans les circonstances difficiles, quand le sort était contraire, il n'y avait personne qui se tienne à la brèche devant un Dieu irrité. Comme autrefois, Moïse intercédait en faveur du peuple d'Israël coupable. En fin de compte, ce fut le Fils de Dieu qui vint comme un homme, pour se tenir à la brèche entre les êtres humains pécheurs et empêcher leur destruction. Dans l'Ancien Testament, les prophètes devaient s'acquitter de leur responsabilité de sentinelle et délivrer un avertissement clair aux pécheurs. Le devoir des bergers était de prendre soin du troupeau, des brebis malades, blessées et égarées. Le leadership dans l'Église de Jésus-Christ n'est pas moins important. Les responsables doivent prêcher l'Évangile aux perdus et prendre soin avec tendresse du peuple de Dieu. Le Nouveau Testament regorge d'exhortations dans ce domaine. Un travail de berger ne peut être accompli efficacement sans un cœur de berger. Quatre applications suite à notre étude. La première application, le livre d'Ézéchiel a un riche message théologique. Voici une liste partielle des sujets que ce livre nous fournit. La sainteté et la transcendance de Dieu, la grâce et la miséricorde de Dieu, la souveraineté de Dieu, la responsabilité individuelle et collective du peuple de Dieu. Méditons-le parce qu'il est extrêmement riche. Deuxième application, le livre nous enseigne aussi beaucoup de choses sur le Seigneur Jésus-Christ. Le bon berger, le nouveau temple, le fleuve de vie, la nouvelle alliance et le tendre rameau. Cherchons Christ dans Ézéchiel et nous serons remplis d'admiration et de ravissement. Troisième application, les rabbins juifs réservaient l'étude de ce livre aux hommes mûrs. Il exige effectivement une certaine maturité spirituelle et un effort persévérant. Mais elle sera très certainement et très largement récompensée. Quatrième application, une étude approfondie du nouveau temple et du nouveau culte décrit dans les chapitres 40 à 46 nous dévoilera beaucoup de choses sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Étudions le livre d'Ézéchiel. Il en vaut largement la peine. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.